FM 93, c'est FM 93, ce midi. FM 93. Ça me parle.
Ici Jeff Blanchette. La troisième et dernière séance d'information sur le tramway avait lieu hier soir. Vous sentez-vous mieux informé? Le décès de la mère de Gilles Duceppe n'était pas un incident isolé. Depuis 2010, 15 personnes âgées sont mortes de froid hors des résidences qui en avaient la garde. Et quand est-ce qu'un mauvais coup va trop loin? Des policiers du SPVM blâmés pour leur humour douteux.
Vous écoutez FM 93, ce midi.
Paul Raff.
Bonjour.
Fala.
Ben, Jonathan est malade. Pauvre Jonathan, et comme on n'a pas voulu que ça devienne une épidémie au bureau, ben on l'a mis en quarantaine chez lui, bien isolé de tous ses collègues.
Justement, tu parles de quarantaine, t'es devant un micro radioactif.
Oh,
c'est celui de Marc Boilard l'après-midi.
Oups.
Marc Boilard attend sa trachéotomie là, d'une journée à l'autre. Là. Il y a encore un petit mal de gorge depuis une couple de semaines. Ça va mieux. Mais quand même, moi, je pense que le puffer, l'espèce de petite mousse qu'on met par-dessus le micro, on devrait la couler dans du béton, la mettre dans un casing en plomb, puis l'enterrer. Juste pour être sûr.
Descendre ça dans le fond du fleuve.
Oui. puis pour être sûr que ça ne revienne jamais. Fait que si j'étais toi, je le changerais pour être sûr de ne pas pogner ce que Jonathan a eu via Marc. Mais je dis ça de même. Là.
Le pire, c'est que le timing est épouvantable parce que quand Pierre, notre patron, m'a écrit hier, il était, je sais pas, peut-être 18 heures, genre. Et moi, aujourd'hui, j'avais prévu déménager. J'ai un chum qui s'en vient me donner un coup de main et tout. Là, j'étais comme, OK. Là, il m'a dit, là, tu vas être en stand-by. Oui, mais c'est parce que là, faut que je le sache, moi aussi. C'est parce que là, faut que je décommande l'armée de helpers qui s'en viennent pour qu'on déménage. Il faudrait que je sois au courant.
OK. C'est là-dessus, que, excuse-moi, ouais, je t'arrête.
Vas-y.
Tu demandes encore à tes chums de t'aider à déménager?
Ben, comment tu veux que je fasse ça tout seul?
À partir de quel âge t'embauches des déménageurs puis tu prends pas tes chums?
Hey, c'est, tu sais quoi le pire? J'ai demandé à mes chums de m'aider, mais moi, ça fait 2 semaines que je déménage là, des gens, que je déménage mes amis. On a déjà 2 déménagements de fête. Là, ça fait que moi, je déménage officiellement samedi prochain, mais on a eu les clés de notre appartement samedi passé, faire du ménage, des affaires, puis... je me suis tellement équipé, Jeff, là, pour être sûr que ce soit pas de trouble. Le camion, louer un diable, trouver des straps de dos, parce que j'ai des straps pour les bras, mais le dos, ça va mieux. Puis, j'ai tellement acheté de cossins pour tenter de faciliter mon déménagement que je dois en avoir pour à peu près le prix des déménageurs.
OK, fait que tu pourrais t'ouvrir un sideline de déménageurs si ben, tu voulais.
Quoi que ça coûte cher. J'avais fait des soumissions l'an passé. Dans le temps du 1er juillet, c'est autour de 1000$ pour un déménagement en bonne et due forme.
Oui.
Je mettrais pas 1000$ pour te déménager. Là, on s'entend, là. C'est sûr que t'as l'esprit tranquille, t'as la paix, ça doit être le fun. Mais c'est impossible que dans la mi-vingtaine, je mette 1000$ pour charroyer des
meubles. Mais il y a personne qui est ravi de payer 1000$ pour un déménagement parce que, en fait, t'as un service. Tu forces pas comme un cave pendant une journée. Mais c'est vrai que c'est de l'argent. Parce que je pense qu'à partir de 30 ans, là, c'est pas mal lascal pour les chums qui t'aident à déménager. À partir de 30 ans, t'as plus le droit.
Ouais, je commence à trouver ça de plus en plus difficile de trouver des gens. À ce temps, c'est pas compliqué. Mes chums, ils connaissent le truc. Ils partent en voyage au mois de juin. De mi-juin à mi-juillet, ils partent un mois, toute la gang.
Fait que le premier, ils sont sûrs de pas être en ville.
Exact. Ils s'organisent pour pas être là. Ouais, mais là, tu sais, c'est le long week-end. Là. Non, c'est pas le long week-end. T'sais. Mais cette année, on s'est vraiment organisé pour que ce soit pas compliqué. On a les clés depuis samedi dernier. Ça fait que là, on a fait du ménage. T'sais, on a eu le temps de faire notre ménage. On fait des boîtes cette semaine. Samedi, c'est les gros meubles. Il n'y a pas de stress. D'ailleurs, c'est drôle parce que samedi passé, quand on a commencé notre ménage, tu sais, quand tu déménages, tu as visité l'appartement une fois au mois de février, mars.
Il y avait des meubles dedans. Il y avait quelqu'un qui habitait dedans.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, quand tu rentres dans un appartement pour la première, en tout cas pour la deuxième fois, c'est comme le moment où tu dis, bon, qu'est-ce qui m'a échappé, là? Qu'est-ce que je pensais qui était extraordinaire, mais qu'est-ce qui va me déranger dans cet appartement-là? Or, samedi passé, c'est drôle parce que là, on arrive, puis le plan, c'était déménager 2-3 plantes, puis surtout faire du ménage. Fait que là, constate que c'est encore bien, tu sais, c'est aussi beau que dans mon souvenir. C'est crotté, là, tu sais. Hey, j'ai frotté des fenêtres, mon gars, là. En moyenne, 45 minutes par fenêtre. Pas vrai. Tellement c'était crotté, tu sais. Mais ça va, on fait nos affaires, puis... On est un peu en hauteur, on est au deuxième étage.
Oui.
Puis là, regarde, je constate que l'affaire qui m'a dérangé, vous allez me dire, ça prend pas grand-chose pour te déranger, là. C'était que c'était des pigeons. Tu sais, quand il y a un pigeon qui vole, ça fait comme... les ailes qui claquent ensemble. Puis là, j'entendais les pigeons passer. Puis t'es comme, ah, ça va-tu être dérangeant, tu sais? C'est comme le coin...
T'as remis en question ton bail, là.
Non,
ton,
pas vraiment.
Ton déménagement au complet. Il y a 3 pigeons sous ma fenêtre, ça m'énerve. On change de place, chérie.
Non, mais attends. C'est honnêtement, je vous mets tous au défi, les millions d'auditeurs qui nous écoutent, là, de trouver un coin de rue qui a plus de pigeons que le mien. Là. Je ne veux pas dire non plus exactement où c'est que j'habite.
T'es dans Saint-Sauveur.
Ouais, limite Saint-Sauveur-Saint-Roch, mais je te jure, c'est le coin de rue où il y a le plus de pigeons.
OK.
Et là, j'avais deux des... Ouais, c'est ça.
J'avais... Des tourterelles ou des pigeons, ça?
Non, ça, c'est des pigeons, puis je suis en train de développer un peu une phobie parce que... Non, mais attends, le meilleur bout s'en vient. J'avais deux déménagements ce jour-là, ça fait que là, je sors dehors, essaye d'appeler mon chum, savoir son rendu où, pour que j'aille leur donner un coup de main, parce que là, je veux après ça qu'eux autres, ils m'aident, puis tout ça. Puis là, j'attends, puis ça répond pas. Puis là, je rappelle, puis je suis au coin de la rue, puis ça répond pas. Quand tout à coup, flop, je me suis fait chier sa tête par un pigeon. Il m'a déféqué sur la tête.
Ça part bien une journée, ben.
Pas sur l'épaule, sur le manteau, là.
Okay.
Des cheveux! Dans les cheveux! Là, j'ai l'impression que c'est comme une goutte de pluie qui m'est tombée dessus. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, étrange. Je me passe la main dans les cheveux. Et j'avais une belle fiente de pigeon ses doigts. Ça a l'air que ça, c'est signe que je vais avoir de l'argent prochainement.
Ah ouais?
Ma belle-mère m'a dit ça pour me consoler.
Dans le dictionnaire des rêves, mettons, non, mais elle a trouvé furieux. Ça là-dedans.
Écoute, parce que moi, je pars en guerre. Là, je vais retrouver le pigeon qui m'a déféqué sa tête. Oui. Et je vais lui déféquer sa tête à mon... Non, c'est pas vrai. Non, mais là...
Je vais l'humilier publiquement.
Ah ouais, là, je suis en guerre. Là.
Okay.
J'ai constaté que je reste pas loin d'une pizzeria. Et je pense que les gens de la pizzeria nourrissent les pigeons. Parce que là, depuis une semaine...
Les employés.
Oui, parce que je constate qu'il y a une fois où je suis passé, il y avait une grosse boule de pâte. Ben, en tout cas, ça avait l'air d'une boule de pâte, mais c'était pas évident. Mais il y avait comme 150 pigeons autour qui mangeaient la pâte. Et le surlendemain, c'était des croutons. Tu sais, des petits croutons de salade César, là. Il y en avait partout sur le trottoir. Là, je me dis, voyons, qui c'est qui aurait assez de croutons pour dire, je me débarrasse de mes croutons, je les jette dans la rue pour les. Fait que je me suis dit, pizzeria, salade César, croutons. Je pense que mon genre de 3/4e voisin, pizzeria, nourrit les petits maudits bandits de pigeons.
Oui.
Puis après ça, les pigeons viennent me chier sur la tête.
C'est pour ça qu'il faut que tu prennes une marche dans le quartier avant de signer ton bail. Il faut absolument que tu prennes le temps là, d'arrêter et là, tu regardes ce qu'il y a autour.
J'ai pas fait ça, moi.
Mon premier appart dans Saint-Sauveur, il y avait un bar de quartier juste en face de chez nous. Je suis plus là, je peux le dire. C'est le Kirouac. Le Kirouac, l'hiver, on l'entend pas.
En face du Kirouac.
On l'entend pas quand c'est l'hiver, les fenêtres fermées, il n'y a pas de trouble. L'été, par contre, à 2h30 du matin, il y a un peu plus d'action. Fait que je suis resté un an dans cet appart-là, puis je m'en suis trouvé un autre. Fait que regarde, je t'emprunte 3 heures. À 2 heures, t'es libéré.
Ouais,
tu peux aller déménager avec tes chums.
Ils sont calés pour 3 heures, là.
T'as une pizzeria à côté de chez vous. Tu vas t'occuper de la pizza.
Exact.
T'occuper de la bière.
Ben oui.
Puis tu vas prendre soin d'eux. Mais tu vas pouvoir poursuivre le processus. Quand t'es arrivé, y avait-tu des crucifix sur les murs, non? Des fois, tu t'arrives dans un nouvel appartement, puis les gens laissent des souvenirs derrière eux.
Non, il n'y avait pas laissé de crucifix.
Bon, okay.
Je cherchais où faire ma prière. Je cherchais où. Voyons, coudonc, dans cet appartement-là, où c'est qu'on se confesse? Il n'y avait pas de crucifix nulle part. Je n'ai pas compris.
Pas le petit confessionnal. Non, je te dis ça parce que la nouvelle est tombée il y a à peu près 3 minutes, 4 minutes. Les écoles, les hôpitaux vont pouvoir garder leur crucifix dans les classes et dans les salles communes. Donc, Éric Duhaime vient de perdre ses prochains combats.
Non, il a gagné. Ils vont pouvoir garder les crucifix.
Oui, mais il vient de les perdre dans la mesure où il n'y a pas besoin de les mener. C'est réglé. Fait que là, son été était déjà booké, lui-là. Là. Il prenait ses vacances, puis il allait se battre pour les crucifix à travers les écoles et les hôpitaux. Et... C'est ça. Il avait réussi pour l'hôpital Saint-Sacrement. Ça avait super bien fonctionné.
Ah ouais?
Fait que là, il se disait, s'il y en a d'autres qui vont être retirés, je vais pouvoir au moins monter aux barricades pour ça. Et finalement, ben Eric, t'as eu raison. T'auras pas besoin de mener ces combats-là. En fait, les directions d'école, les hôpitaux vont pouvoir décider de leur propre chef de les retirer. Mais c'est pas le gouvernement qui va exiger qu'on enlève les crucifix.
Ah ouais, mais là, s'ils décident de les retirer, par exemple, il y a quand même un os sur lequel on pourra mordre.
Il va falloir qu'ils dénoncent les directions elles-mêmes.
Ah.
Mais
pas
le gouvernement.
Mais là, il y a encore les salles de conseils municipaux là, qui les retirent. Là, ça, c'est bon, ça? Ça fait des bonnes pétitions?
C'est vrai. Non? Si tu veux aller à la ville pour ça, c'est vrai. Il y a les palais de justice aussi.
Yes.
Là, les crucifix vont être retirés. Madame Lebel l'a confirmé il y a quelques semaines. Donc, pour ce qui est des écoles et des hôpitaux, là, ça va être à la discrétion d'eux. Il n'y a pas de grande règle commune qui est partagée à travers la province. C'est vraiment au cas par cas. Bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent au moins garder l'héritage.
Non, mais on rigole un peu parce qu'effectivement, c'est un des combats que notre collègue Eric a décidé de mener. Moi, j'aurais pas mené ce combat-là, mais tu sais pourquoi ça pose autant de problèmes, ça soulève autant les ardeurs là, chez les gens, c'est qu'il n'y en a pas de vraie bonne réponse définitive, unique et objective sur la signification d'un crucifix. T'sais, toi, tu peux dire, le crucifix, c'est un symbole religieux pour être cohérent avec le projet de loi sur les signes religieux pour les employés de l'État. Ben, il faut enlever les crucifix. Et honnêtement, c'est une opinion qui est valable. Ça se peut, ça. C'est vrai. Mais quelqu'un qui dit non, il faut les garder, il faut les laisser accrocher au mur parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, ça rappelle les congrégations religieuses qui nous ont qui ont été les pionniers de notre système d'éducation, notre système de santé. Mm-hmm. C'est vrai aussi. Tu sais, c'est que ça va. C'est un débat qui va nous chercher dans nos sensibilités.
Ouais. Ben, la signification est dans l'œil de celui qui regarde le symbole.
Exactement. Exactement. C'est pour ça que moi, je peux même pas te dire. Suis-tu pour ou contre qu'ils laissent les... J'ai ma propre opinion, mais c'est insignifiant. Comme, t'sais, c'est normal qu'il y ait deux opinions différentes.
La tienne et pour moi, vaut la mienne là-dessus.
Exact. Les deux ont raison. Ça fait que moi, pendant ce temps-là, ben, je déménage puis je me mets pas des crucifix.
T'as d'autres problèmes que ceux-là. Mais bon, ça a été annoncé il y a quelques minutes. Là, c'est le Journal de Québec via Geneviève Lajoie qui rapporte ça. La guerre du plastique s'invite au festival d'été. Il y avait encore certaines scènes où on nous servait la bière dans un verre de plastique, c'est-à-dire la scène devant Place Diouville, la scène devant l'Assemblée nationale, le fameux cœur du FEC.
Ouais.
Et aujourd'hui, on apprend que désormais, on va avoir les bières directement dans les canettes. On n'aura plus besoin de verser la bière dans le verre de plastique. On voulait éviter que la bière se ramasse dans les rues. Parce que pour les policiers, c'est facile d'identifier un verre de bière quand c'est écrit Molson dessus, mettons, alors qu'une canette, ben, faut que tu regardes. Puis c'était vraiment l'objectif que la bière se ramasse pas sur la voie publique. Et là, ben, le festival d'été a fait un genre de deal avec la ville de Québec. Ils ont dit, regardez, on va mettre un peu plus d'agents de sécurité. On va avoir un corridor pour rentrer et sortir de ces sites-là. Il y en avait déjà, mais c'était surtout un goulot d'étranglement avec les barrières autour de Diouville. Là, on va essayer de le faire un peu plus clair et ça va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin de donner des verres de plastique. Il y a 25 000 verres de plastique qui vont être épargnés, qui vont pouvoir vivre une vie heureuse ailleurs.
Remarque, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où c'est correct, tu sais. Ça se fait dans une optique de réduire les déchets de plastique. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est l'option facile, on va dire, là, tu sais, dans le sens où prendre la bière, la mettre dans un verre ou prendre la bière, la donner. En fait, ça va être bien plus facile pour les gens qui la servent de pas la verser dans un verre, de pas perdre du temps avec ça, puis juste pouvoir vendre la bière, prendre l'argent, faire la transaction.
Non, ouais, on va sauver du temps, on sauve l'environnement. Faut quand même les déboucher parce qu'on veut pas non plus que ça devienne des projectiles. C'est pour ça qu'ils les ouvrent.
Oui,
là.
Oui,
même
oui,
si t'en commandes 6, ils les ouvrent toutes.
Les 6.
Parce que si t'es lance dans la foule, ils vont se vider au fur et à mesure plutôt que de devenir un projectile. Donc ça va rester, j'imagine. Là.
Mais je comprends pas l'espèce de crainte là qu'il y ait. Qu'est-ce que ça pourrait faire si, par exemple, tu sais, ton périmètre au final, là, au lieu que ce soit juste là où il y a des gens, tu sais, je pense au cœur du FEC devant l'Assemblée nationale, là, ça ferait quoi qu'il y ait des gens qui prennent leur bière ouverte, évidemment, donc ils puissent pas l'utiliser comme un projectile, puis qui partent du cœur du FEC, puis qui s'en aillent ces plaines d'Abraham avec leur bière.
Ça, c'est culturel, à mon avis.
Écoute, je le sais que c'est interdit par la loi de prendre de la bière dans un lieu public, là, se promener sur la rue avec la bière. Mais, il me semble, pendant le festival d'été, ce serait-tu si grave que ça si, en plus, ça facilite le retrait de 25 000 verres de plastique, là, ouais. T'sais, de juste dire, regarde, t'as pas le droit, en général, de prendre de la bière sur la voie publique. Pendant le festival d'été, on va tolérer.
OK, mais si tu le permets pendant le festival d'été, le Comédia va vouloir qu'on le permette pendant leur événement à eux. Il y a quelques sites différents, tu pourrais acheter tes breuvages.
Ben
si
ouais.
Ça commence avec le festival d'été, ils vont dire, ben les autres événements de la ville vont dire, il y a une espèce de passe-droit pour le plus gros, on est d'accord. Là,
mais le Comédia, c'est pas mal concentré autour du parc Georges V, en face du manège militaire, si je ne m'abuse. Mais encore là, j'ai envie de dire YP. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait si, quand tu as des grands événements qui fonctionnent en partenariat avec la ville, ces gens-là se parlent, ils ont des espèces de petits contournements de règlement, là, des fois, pour s'assurer que tout se passe comme il se doit pour l'événement. Qu'est-ce que ça ferait? Ben, peut-être qu'il y aurait plus de corps morts à certains endroits.
Ah, mais il y a des gens pour les ramasser.
Je le sais, effectivement. Mais peut-être, ça, c'est une des...
Est-ce mais en même temps, il faut que tu fasses un périmètre. Il faut que tu aies une limite à quelque part.
Oh,
donc,
oui.
Forcément, il faut que tu mettes une barrière à quelque part puis que quelqu'un te dise, à partir de ce point-là, tu n'as plus
ça.
Le droit d'avoir ta bière.
Ben oui.
Et là, les policiers pourraient patrouiller de l'autre côté de la frontière.
Ben, tu as les portes, là, sur Saint-Jean, qui délimitent pas mal le carré Diouville de toute façon. Honoré-Mercier, la fontaine de Tourny, les shows qui sont sur les plaines au parc de la francophonie,
comme
c'est tout dans le même périmètre.
En Allemagne, tu peux te promener avec une bière dans les mains, il n'y a rien de plus banal que ça. Par contre, si tu traverses une lumière rouge comme piéton et que tu ne respectes pas ton feu, tu te fais rincer.
Direct.
Fait que c'est vraiment une question de valeur, j'ai l'impression. Au Québec, on a décidé qu'on n'avait pas le droit de boire dans la rue. De la même façon que dans la ville de Québec, on n'a pas le droit de fumer un joint de pot dans la rue, même si c'est devenu légal. On a mis des limites, puis on a décidé ça ensemble.
Tu sais, parce que t'as pas plus le droit, dans mon hypothèse, là, t'as pas plus le droit à des écarts de comportement, t'as pas plus le droit d'être ivre-mort sur le trottoir, t'as pas plus le droit de pisser sur un arbre. Tu sais, c'est ça, c'est les mêmes règlements que d'habitude, mm-hmm. mais on fait juste pas paniquer si on voit quelqu'un qui a une canette de bière dans les mains. T'sais.
Non, oui.
Il me semble que c'est assez simple, là.
On pourrait régler ce problème-là, mais bon, c'est quand même un pas dans la bonne direction pour le festival qui s'est entendu avec la ville. Il y a aussi les pailles de plastique, l'ennemi public numéro un, qui va être éliminé complètement du FEC. Là. Il en restait dans les loges puis dans les espaces VIP. Là, ils ont dit c'est terminé. Si vous en voulez apporter vos propres pailles en plastique ou en métal, arrangez-vous.
Ah ouais, c'est BYOP. Bring your own pie.
On peut y aller avec Strauss, ça.
Fait que les gens qui vont aller dans la zone VIP,
ouais.
qui vont payer. Qui sortent le REER pour avoir des billets, tu sais, super bien avec le bar puis la bouffe puis ça, faut qu'ils amènent.
Ah oui?
Faut qu'ils amènent leur petite paille.
Apporte ta paille, c'est terminé.
Moi, je t'avoue que j'aurais, même si je suis bien content là, qu'on lutte contre les changements climatiques puis le plastique, mais il me semble les pailles dans la zone VIP, ça représente quoi comme volume de déchets, ça, au bout du compte?
C'est devenu un symbole, ça aussi.
C'est bien plus symbolique que concrètement. L'impact environnemental de retirer une poignée de paille dans la zone VIP.
Ah oui.
Entre toi puis moi. Les verres de plastique, à la rigueur, je suis convaincu que ça représente un plus gros volume de déchets.
Oui.
Parce que là, c'était, il n'y en avait pas ces plaines déjà, les verres. Là. Mm-hmm. C'était au cœur du FEC puis à Place Diouville. Mais bon, 25 000 verres, OK. Mais y a-tu 25 000 pailles? Peut-être que oui, remarque, je sais pas. 25 000 pailles, c'est combien de paquets de pailles?
Oui, c'est fait fondre, là, ça donne combien de pailles?
Ça donne une boule grosse. Peux-tu les faire fondre puis genre fabriquer des bâches avec ça? Quelque chose d'utile.
Des barils pour récupérer l'eau. Tant qu'à être écolo, là, il y a moyen de faire de quoi?
Des barils pour récupérer l'eau de pluie.
On les garde.
Oh.
Je veux revenir sur une lettre d'opinion qui a été publiée ce matin dans la presse. C'est une lettre de Sabrina Samson. Vous la connaissez pas? Je la connaissais pas moi non plus. Elle est enseignante en sixième année du primaire en Abitibi. Et elle dénonce aujourd'hui les examens du ministère. On est en plein dedans cette semaine. On est en train de jaser de ça. Les élèves sont en train de passer ça. Et là, évidemment, s'il y a une prof qui écrit une lettre d'opinion, c'est pas pour encenser les examens du ministère. C'est pour les dénoncer. Je vous en lis un court extrait.
Yes!
Ça s'adresse au ministre de l'Éducation, M. Roberge. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous êtes-vous déjà retrouvé devant une tâche que vous deviez réussir sans être certain de posséder les capacités nécessaires? Oui, être ministre de l'Éducation. Si oui, vous souvenez-vous du sentiment d'incompétence qui vous a assailli, des larmes qui coulent, de la pression qui monte, du cœur qui palpite? En cette semaine provinciale d'examen du ministère en mathématiques, avez-vous seulement une petite idée du nombre d'élèves qui se sentent ainsi jour après jour?
Je peux-tu t'arrêter tout de suite?
Oui.
Parce que c'est drôle, parce que tu as donné le meilleur des exemples. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une tâche que vous deviez réussir sans être certain de posséder les capacités nécessaires? Être ministre de l'Éducation, c'est vrai que c'était quand même un pas pire exemple.
Dès que tu prends un job, t'es pas sûr à 100% que tu vas réussir. Là.
Moi, quand je suis rentré au FM 93, Jeff, j'étais le journaliste de Myriam Segal
dans
l'émission du week-end. Et il se trouve que je sortais de l'école, j'avais une formation au Collège Radio-Télévision de Québec, qui est une excellente formation d'animation, mais qui est pas la meilleure des formations pour journalisme, OK?
Mm-hmm.
Et je me suis retrouvé qu'à être journaliste, alors que j'avais ni les compétences, ni les connaissances, ni les outils pour le faire. Et honnêtement, là...
pleuré, pression qui monte et cœur qui palpite.
Sentiment d'incompétence, ça m'est arrivé. Il y a une fois que je me souviens, là, j'avais manqué un point de presse, j'étais pas capable de le trouver. C'était dans le coin de la citadelle où est-ce que toutes les affaires militaires. Okay, là,
géographiquement, t'as pas trouvé.
J'ai pas trouvé. Puis là, attends. Là, j'appelle le chef des nouvelles de l'époque. Je dis là, écoute, je suis vraiment mal pris. Ça fait une demi-heure que le point de presse est commencé. C'est sûr, je l'ai manqué. Je trouve pas à place. Et il me dit, ouais, mais pourquoi t'as pas appelé le relationniste? Je dis, ben, je sais pas c'est qui, j'ai pas son numéro. Il dit, c'est parce que c'est écrit dans le bas du communiqué. Puis j'ai fait, ah ben oui, le communiqué, ah ben, j'avais jamais tenu, je devrais pas dire ça, peut-être nos patrons écoutent, j'avais jamais tenu un communiqué de presse dans mes mains jusqu'au jour où j'étais journaliste au FM 93 la fin de semaine, OK? Là, à ce moment-là, je te jure que je me sentais, mais incompétent, là. Vous avez même pas idée à quel point.
L'école t'avait pas préparé à ça.
Ouais, mais, ouais, puis moi, j'étais aussi incompétent. Mais, remarque, peux-tu dire que la fin de semaine d'après, puis toutes les fins de semaine suivantes, j'appelais toujours les relationnistes pour savoir, OK, si tu viens à telle heure, qu'est-ce qu'il faut que je sache, OK, ça va marcher comment. À toutes les autres sorties que j'ai faites, à tous les... Je l'ai appris. Ça a fait mal un peu, tu sais. Il y a vraiment eu un moment où je me sentais incompétent. Ça fait mal. Mais je l'ai appris.
Puis t'étais en milieu de travail. Si le boss avait été chien, il aurait pu dire t'es un incompétent de war. Tandis qu'à l'école, on revient à l'examen du ministère, tu peux te planter. Puis les conséquences sont pas si graves que ça. Il y a de moins en moins d'élèves qui doublent leur année au Québec.
Ouais.
Il y a toujours un moyen de s'arranger. Souvent, on a eu des situations où les notes sont gonflées à la hausse pour atteindre le seuil de réussite. Ça, on l'a vu aussi. Il paraît que ça se fait plus. Ça se fait encore.
Gonfler les notes.
Exact. Ouais. Et là, la prof a dit qu'elle a des élèves à consoler. Puis elle dit, moi, là, comme prof, je travaille avec mes préados, profs de sixième année, afin de les aider à construire leur estime d'eux-mêmes et à accepter qu'ils n'avaient pas tous les mêmes forces. Et là, elle ajoute, en l'espace de quelques jours, je vois tout le travail que nous avons fait être anéanti par une semaine d'examen trop difficile pour la plupart des élèves.
Ouais. Remarque, il y a une chose quand même. Les examens du ministère, il y a des gens dont le travail, c'est de construire ces examens-là. Puis la complexité, c'est que les profs essayent de préparer leurs élèves à leur façon, le mieux possible pour cet examen-là. Donc, c'est pas le prof qui enseigne la matière qui fait l'examen. Ça arrive des années où les examens sont trop difficiles. Mm-hmm. Ça arrive, ça se peut. Ils sont plus difficiles que les autres années. Fait que ça, honnêtement, on ben beau rigoler, mais c'est une possibilité que l'examen, mettons, cette année, y ait été trop difficile. Mais quand elle dit, toute l'année, j'ai travaillé avec mes préados afin de les aider à construire leur estime d'eux-mêmes et accepter qu'ils n'avaient pas tous les mêmes forces, peut-être si elle avait travaillé plus sur les mathématiques, tu trouverais ça moins difficile, l'examen de mathématiques. Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné aussi, c'est important d'apprendre à ces jeunes-là à se développer comme personne, mais il y a de la matière à apprendre, il y a des connaissances
exact.
À acquérir.
T'as une base à aller chercher à l'école.
Ben oui, il y a des notions, il y a des théories en maths qu'il faut que t'apprennes la formule, il faut que tu la retiennes par cœur, il faut que t'apprennes à l'appliquer. Mm-hmm. Puis là, t'es plus dans le développement personnel. Là, t'es dans l'application de concepts et de connaissances.
Ah oui. Mais on revient à l'examen, on peut le voir comme un obstacle. Si t'es poche en maths, c'est un obstacle, mais la vie va en mettre un méchant paquet d'obstacles en avant de toi. Puis si à l'école, en sixième année, on retire cet obstacle-là, tu vas grandir avec moins d'obstacles à franchir. Puis quand tu vas arriver là, dans la vraie vie, là, avec les entrevues d'embauche, les ruptures amoureuses, te faire congédier, quand il va y avoir des vraies épreuves, là, celles que tu peux pas éviter, tu seras pas prêt à les affronter. Fait que l'école, faut que ce soit un apprentissage aussi pour ça. Au-delà des connaissances, il faut que tu puisses développer ta tolérance au stress. Puis je pense pas que c'est en les protégeant, puis en les mettant dans le papier bulle, puis en dénonçant les examens du ministère que tu vas y arriver. Il faut qu'à un moment donné, tu te pètes la gueule à l'école pour dire « Hey, sais-tu quoi, je me suis cassé la gueule. Je me suis relevé, je suis pas mort, puis je continue. Je me retrousse les manches, puis je poursuis mon chemin. »
Ça prend être débrouillard. Il y a quelqu'un au 25226 qui nous texte un truc quand même assez intéressant. Quelqu'un nous dit « La prof de cinquième année de ma fille leur annonce que leur note présentement a un impact sur leur métier d'avenir. »
En cinquième année?
« Ma fille stresse solide parce qu'elle a peur de pas pouvoir faire la job qu'elle veut faire. Si elle a un échec en cinquième année, le stress vient pas des examens, il vient des profs. » Ben, forcément, il y a une partie de ce stress-là qui vient des profs. Sauf que, moi, mon point, c'est que le stress, à un moment donné, là, le stress des examens, le stress de performer à un moment précis, de se préparer pour ce moment-là, de préparer les divers scénarios qui peuvent arriver, d'apprendre que une des meilleures façons de calmer ton stress, là, c'est en travaillant,
oui.
C'est en te préparant. Ça s'appelle former des gens à devenir des adultes. Je pense que c'est normal, moi, qu'il y ait un niveau de stress quand t'es à l'école.
Puis d'avoir un prof qui te dit en avant, ça va bien aller, inquiète-toi pas, t'es bon. Faut que tu les encourages, faut que tu fasses du renforcement positif, mais en même temps, faut pas que tu projettes la catastrophe
et
que tu sois anxieux à leur place, parce que eux autres, ils vont sentir ton stress. Et s'ils se rendent compte que toi, t'aimes pas les examens du ministère, ils vont dire, ben là, Madame Tremblay, elle aime pas les examens du ministère, ça doit être dangereux, ça doit être vraiment grave, ça doit être... Puis en cinquième année, je m'excuse, là, t'es pas en train de bâtir une cotère pour avoir une cote Z, pour avoir la médecine après, là.
Ben non.
Calmons-nous, là. Ah oui, on est au début du cheminement scolaire, là. Il va y en avoir un paquet d'examens en avant de toi. Donc, on va prendre une grande respiration, on va passer l'examen. Puis, quand j'entends parler d'anxiété de performance chez les jeunes, ça m'inquiète. Il y avait du monde stressé, là, quand j'étais kid dans la classe, là. Puis du monde qui pleure pendant des examens. J'ai déjà vu ça.
Ah oui.
Mais de là à mal dormir des semaines à l'avance, puis tout, là.
Ah, puis c'est pas peu dire, parce que toi, t'es un gars assez stressé, quand même. Ça qu'imagine si toi, t'étais pas stressé, puis que tu voyais les autres stressés dans ta classe.
Regarde, je prends quelques commentaires au 25226 avant d'aller à la pause. J'esquive.
Bien esquivé.
Développer une personne, c'est la job des parents. Développer des connaissances, c'est la job des profs.
Ben c'est les deux. C'est les deux. C'est juste que, en tout cas, moi, je pense que c'est normal que les profs, dans leurs enseignements, ils transmettent des valeurs puis qu'ils essaient de former les jeunes à devenir aussi des bonnes personnes. Mm-hmm. Mais c'est pas la job principale. Là.
Non, c'est vrai. Mais quand même, la gestion du stress... On nous dit il y a plus de stress aujourd'hui que dans les années 90. Je suis content. Je comprends. Je suis d'accord avec vous là, quand vous dites ça. Là. Mais justement, ça commence plus jeune. Mais il faut quand même développer les outils. Puis ça passe par affronter des obstacles puis réussir à passer par-dessus. 11h25, on est déjà en retard au FM.